que Radio Capi Uni le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Bien, nous parlons à présent de la biodiversité. Que faire pour préserver la biodiversité? C'est quoi la biodiversité? Eh bien, et comment la préserver? Quels sont les dangers si on ne le fait pas, si on ne préserve pas la biodiversité? Eh bien, nous allons aborder toutes ces questions dans quelques instants avec notre invité. Il s'agit de Flory Botamba, coordonnateur de projet Point Focal Red au Fonds mondial pour la nature. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, on parle aujourd'hui de la biodiversité. C'est quoi la biodiversité, monsieur Flory?
La biodiversité, c'est la variété et la variabilité de toute forme de vie sur la Terre. Donc, en tenant compte des écosystèmes terrestres, écosystèmes marins, d'autres écosystèmes aquatiques et aussi toutes sortes d'activités qu'on peut trouver sur la Terre.
Donc, on retient, c'est la variété de toute forme de vie.
Exact.
Alors, donc, des exemples précis.
Donc, tout ce que nous buvons, quand nous parlons de l'eau, donc vous avez, nous parlons des écosystèmes aquatiques, il y a l'eau, et nous pouvons aussi voir tout ce qui est terrestre, la vie qu'il y a, les différents mammifères, les poissons, les amphibiens, nous avons les espaces d'oiseaux, les reptiles, tout ce que nous trouvons sur la Terre qui a une vie, constitue cet ensemble de la diversité biologique, et aussi les différentes forêts. Nous avons le miombo, les grandes forêts de la cuvette, les forêts de montagne, le mangrove, donc toutes sortes de vies qu'on trouve sur la Terre. Fait cet ensemble-là, nous parlons de la biodiversité, dans la diversité biologique. Et la RDC, comme on le sait, c'est un pays de méga biodiversité.
Parce que ça recouvre, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que la RDC
est là? Nous avons plus de 11 000 espèces de plantes, plus de 400 000 espèces de mammifères, donc à peu près 50% de ce qu'on trouve en Afrique. Nous avons plus de 1000 espèces d'oiseaux. Donc, nous avons autant, si je peux continuer à citer, notre forêt, c'est 155 millions d'hectares de forêt, c'est plus de la moitié de la superficie de notre pays, et c'est aussi, ça fait partie du bassin du Congo, qui est le second massif forestier, après celui de l'Amazonie, qui joue un rôle très important dans la régulation climatique, et aussi en termes de produits forestiers non lignés que nous trouvons dans les différentes forêts. Donc, voilà un peu ce que nous avons.
Donc nous avons pas mal d'éléments qui font partie de la biodiversité.
Exact, exact. Et c'est ça l'intérêt justement de faire des programmes pour préserver cette diversité biologique.
Parce que l'homme aussi fait partie
l'homme,
de la biodiversité.
C'est l'élément moteur et c'est aussi l'élément destructeur. Donc, il est moteur lorsqu'il fait sa préservation, mais lorsqu'il va, parce que c'est là qu'il retrouve ce dont il a besoin pour sa survie ou sa vie, et c'est aussi l'homme, par le besoin justement de cette survie, il devient un problème lorsqu'il y a une expansion démographique assez importante. Donc, les besoins en termes de tout ce qu'on retrouve dans la vie devient beaucoup plus important. Donc, l'homme fait une pression spécifique dans la nature, et les résultats, c'est qu'il y a deux espèces qui disparaissent. Lorsque nous prenons un cas d'espèce, nous avons des espèces, par exemple, de mammifères qui sont endémiques à la RDC, que ce soit des plantes ou autres. J'ai fait allusion à l'Okapi, qu'on trouve à l'est du pays. Et vous vous souvenez, on a eu des événements fâchés à un moment donné. Il y a un groupe de rebelles qui s'était attaqué à la réserve de fauna Okapi, et on en a décimé une partie. Donc, ça, c'est l'action de l'homme. Mais de l'autre côté de la médaille, on se rend compte que ces okapis ne se trouvent qu'ici, dans notre pays. Et c'est une opportunité touristique, c'est une opportunité aussi pour la beauté de notre pays, de voir ces espèces. On parle de bonobo, on peut les trouver sur la rive gauche de notre pays, du fleuve Congo. Et là, c'est aussi une opportunité d'avoir une espèce endémique. Nous avons les quatre espèces de grands singes, en dehors de ce qu'on les trouve en Afrique, en dehors de l'espèce de l'orang-outan qu'on trouve en Asie, à Bornéo. Mais tout ce qui est chimpanzé, gorille, chimpanzé nain de bonobo, on le trouve qu'ici en RDC. Donc ce qui est
donc notre pays est riche en biodiversité.
Elle est plus que riche. C'est une opportunité pour la recherche, pour tous les domaines, possibles, pour faire valoir la qualité de ce que nous avons. C'est une opportunité que le pays a.
Et comment aujourd'hui préserver cette biodiversité?
Donc pour préserver cette biodiversité, il y a le pays qui a un programme à travers les différents ministères qui ont une incidence directe sur la biodiversité, notamment les ministères de l'Environnement qui a mis en place de mécanismes légaux, notamment la loi sur la conservation de la nature, le code forestier et autres documents légaux juridiques qui permettent à ce que qu'on puisse améliorer la gestion de cette biodiversité. La présence ou la création, l'érection de parcs, réserves au niveau de nos blocs forestiers. Oui. C'est-à-dire que nous avons trois types de forêts, classées. Donc le pays peut mettre de côté une zone pour la qualité de la biodiversité qui se trouverait dans ces blocs forestiers. Mmh. Ou bien pour la pression que l'homme fait sur cette partie et pour ne pas perdre tout ce qu'on a dans la zone, le pays peut ériger cette zone en zone classée. Nous avons la partie qu'il appelle la forêt de production permanente. Le pays peut valoriser une partie de cette forêt en mettant en exergue, par exemple, l'exploitation industrielle ou artisanale de bois, mais sous la forme légale. Mmh. Et puis le pays aussi à une zone qu'il appelle la forêt protégée, où les communautés riveraines à cette
zone. Non, parfait.
Oui, justement, les communautés peuvent demander à l'État la gestion de ces blocs forestiers qu'on appelle la concession forestière de communautés locales. Et au-delà de cela, il y a des activités internes, c'est-à-dire qu'il faut contrôler ce qui s'est fait à l'intérieur, donc il faut mettre des garde-fous. Au niveau des parcs, il faut des écogardes. Justement, il faut une gestion, ce que nous appelons la co-gestion, une politique de conservation communautaire, dont les communautés environnantes à la zone devraient participer avec l'organe étatique qui est appelé à travailler dans cette zone-là, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, dans ce cas précis,
oui.
Collaborer ensemble pour une meilleure gestion de ces différents parcs, réserves et domaines. Et la même chose aussi pour les forêts de production permanente, l'État est appelé à collaborer avec les exploitants et les exploitants sont appelés à collaborer avec les communautés riveraines pour une meilleure gestion de ces ressources et pour que les communautés aussi puissent tirer un profit de ce qui est en train de se faire. Donc le travail est à deux revers. On vous donne une partie ou l'État met de côté une partie, mais on doit faire participer
les communautés locales également.
Pour justement qu'ils puissent tirer profit des ressources qui sont dans leur zone.
Voilà. Que faire pour préserver la biodiversité? On en parle aujourd'hui avec M. Flori Botamba, coordonnateur de projet Point Focal à l'aide au Fonds mondial pour la nature. Nous disons merci à tous les internautes qui nous ont écrit sur la page Facebook d'Okapi Service pour poser une question par rapport à ce thème. Nous avons par exemple, on va lire la question de Patient Kafoula, et il nous dit, depuis Kalemie, le déboisement permet aux villageois d'avoir le pain quotidien, il faut leur trouver des solutions palliatives. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Patient?
Justement, le déboisement permet aux communautés de trouver de quoi prendre soin de leur famille. Mmh. Mais en même temps, si nous déboisons, nous déforestons, donc nous émettons de gaz à effet de serre ou qui contribuent au réchauffement climatique. D'où il faut faire le travail inverse, le reboisement. C'est-à-dire les communautés doivent avoir des plantations à la fois avec des essences qu'on trouve au niveau local ou des essences à croissance rapide, justement dans les cas de pour le besoin en énergie bois.
Oui.
Et ici à Kinshasa, au niveau des Mampou, Ibi et autres endroits, on a tenté l'expérience d'acacia qui permettent à ce qu'après un certain temps, ces espèces atteignent leur croissance, leur maturité et qui peuvent être exploitées pour les besoins d'énergie bois. Donc le bois de chauffe, en même temps aussi pour le makala que nous avons besoin, que nous utilisons au quotidien. Mais au-delà de cela, on améliore aussi la qualité de foyer qu'on utilise pour préparer les mbambula.
Oui.
Il y a la mise en place de mécanismes de foyers
améliorés
qui permettent à ce que on puisse réduire le besoin en makala pour une cuisson peut-être aussi rapide et aussi de la même qualité.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Capi.
Que faire pour préserver la biodiversité? Flori Botamba, coordonnateur des projets Point Focal Red au Fonds Mondial pour la Nature, et notre invité, deux auditeurs en ligne, Wesley Louboya nous appelle des Kananga, Omar Kigalo et à Kinshasa. Et bonjour à tous les auditeurs. On commence avec Wesley Louboya. Wesley, vous êtes à Kananga. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je suis à Kananga. Je suis en train d'écouter la radio Capi.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Wesley?
Oui, je suis en train de vous écouter. Je salue d'abord la radio, puis tous les auditeurs, pourquoi pas l'éviter.
Oui, quelle est la question, Wesley?
Voilà, donc, pour moi, c'est un sujet très important qui m'a personnellement intéressé. Mais la plus grande difficulté, c'est qu'il y a encore un manque de sensibilisation. Parce qu'ici, à Kananga, je me rappelle dans les temps, le long de grandes artères de la ville, il y avait partout des gros arbres implantés par le Belge. Mais tous ces arbres ont été déboisés et jusqu'à aujourd'hui, aucun reboisement n'a jamais été fait. Et c'est là, je trouve que c'est un principal, on dirait une principale cause de beaucoup de contamination parce que la plupart de la population ici à Kananga n'arrive pas à dégager les bombes. Donc, il faut demander à ce que l'on puisse...
Désolé Wesley, la communication se détériore, on vous entend presque plus. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ah, bonjour Jody et merci pour la parole, j'ai trois questions. La première, je voudrais poser à l'invité qui est mieux outillé que moi. Qu'est-ce qui fait que dans notre pays, il faudrait dire dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de lois, je parle qu'en notre pays, nous avons la loi de 2011, la déclaration de Rio, la convention de Maputo, les codes forestiers, les codes miniers. Mais qu'est-ce qui fait que malgré l'existence de plusieurs lois environnementales, on n'arrive pas toujours à respecter les normes environnementales? Deuxième question. Aujourd'hui, tous les environnementalistes attaquent ou condamnent les déboisements abusifs. Or, on oublie que parmi les grands producteurs de notre de l'Afrique, dans les domaines du bois, il y a notre pays. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme mesure alternative pour éviter ou comment faire pour lutter contre les déboisements abusifs? Parce que c'est avec le même bois qu'on utilise aussi les charbons que nous utilisons. S'il faut aujourd'hui éviter les déboisements abusifs, qu'est-ce qu'il peut proposer pour pallier en termes de charbon, en termes de production du bois? Et dernière question, il semble que, puisqu'on parle des espèces biodiversielles, si on peut citer aussi l'homme, il semble que ceux qui fument polluent l'environnement, il semble que les sociétés brassicoles, lorsqu'ils finissent avec leurs déchets, les déversent dans l'eau, ils polluent l'environnement. Il semble aussi que les voitures qui passent au travers le gaz qui dégage, ils polluent l'environnement. Est-ce que c'est vrai, sur le plan scientifique, que ce qu'ils font là sont des actes polluant l'environnement? Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'humains, l'une des aspects de la biodiversité, pour éviter cela? Parce que ça pollue l'environnement, et lorsque l'environnement est sale, l'homme ne peut pas survivre. Comment on peut faire, puisque le gouvernement ne fait rien, nous-mêmes, citoyens, pour éviter tous ces faits qui polluent l'environnement? Voilà mes questions, je vous remercie.
Bien, merci Omar Kigalo de Kinshasa. Monsieur Flori.
Merci pour ces différentes questions. Effectivement, si nous regardons à notre ami qui nous appelait de Kananga, la sensibilisation est un outil essentiel pour prévenir et informer et aussi faire participer les communautés, les Congolais et toutes les personnes qui vivent au Congo à cet effort de la meilleure gestion de notre biodiversité ou de notre espace. Et ce sont des outils à développer. Effectivement, si vous allez dans les différents ministères, on en a cité certains, le ministère de mines, qui a un code minier pour améliorer la gestion. Je crois que Kananga, on fait l'exploitation du diamant. Et donc, dans les Kasaï occidentales, je pense qu'il est important qu'il y ait un outil pour pouvoir expliquer les communautés comment le travail doit se faire et que ce respect des normes doit être une légende, non seulement pour ceux qui travaillent, mais aussi pour ceux qui nous dirigent et ceux qui sont des différents ministères de tutelle. Donc, la sensibilisation est la chose la plus importante. Mais il ne faut pas simplement sensibiliser, mais il faut que nous fassions de cela un mode de vie. Donc, que nous protégeons, parce que si nous ne protégeons pas, ce ne sont pas les voisins qui vont en pâtir, mais c'est plutôt nous-mêmes. Mmh. Donc, c'est comme au niveau de nos maisons. Si nous ne nettoyons pas dans les environs de nos maisons, ben, les moustiques qui vont nous piquer.
Et nous allons tomber malades.
Voilà, donc, faut pas regarder aux voisins, faut qu'ils viennent nettoyer. Donc, ça, c'est notre responsabilité à nous pour aller dans ce sens. Et en parlant de déboisement des espèces au niveau de nos avenues, de nos boulevards, le problème est connu dans toutes les grandes villes et il est important, non seulement au niveau de ces grandes villes, mais au niveau de nos maisons, que nous ayons toujours les réflexes de planter un arbre. Et cet arbre-là a la capacité par l'effet de la photosynthèse, transformer ces gaz carboniques en oxygène dont nous avons besoin. Donc ce n'est pas simplement au niveau de nos avenues, mais aussi de nos maisons, de nos parcelles. Donc, c'est une responsabilité commune. Et si nous allons selon l'ami qui a parlé au niveau de Kinshasa.
Omar Kigalo, il nous dit malgré l'existence des lois, on ne respecte toujours pas. Cela, l'environnement n'est pas du tout préservé.
Je crois que c'est un travail qui s'est fait non seulement au niveau international ou au niveau national, mais le respect, c'est nous tous. Hein. C'est un travail, comme je l'ai dit, c'est une affaire de tout le monde. Lorsque nous regardons même dans notre constitution, la constitution nous dit quelque part, les articles 50, nous dit tous, nous avons besoin d'un environnement sain. Donc, c'est-à-dire que nous avons la responsabilité de veiller sur cela. Mais au-delà de cela, nous avons aussi des ministères de tutelle qui ont des mécanismes de contrôle sur les travaux, l'exploitation qui s'est fait au niveau de différentes. Si nous parlons, il a parlé des
déboisements, les déboisements abusifs aujourd'hui. Comment faut lutter contre cela?
Donc, lorsqu'il y a des alternatives, il y a des alternatives qu'il faut mettre en place parce que c'est le besoin. C'est quoi? C'est l'énergie bois. Le besoin, c'est quoi? C'est l'exploitation industrielle. L'exploitation industrielle de bois, il faut mettre un mécanisme d'exploitation à faible impact qui réduit justement le méfait de ce travail-là. Il faut aussi une exploitation artisanale contrôlée, une exploitation artisanale légale qui lutte contre l'exploitation artisanale illégale qui coupe non seulement les normes, non seulement au-delà des respects de leur permis de coupe, mais qui doivent et respecter aussi les essences qu'ils ont demandé à couper, à exploiter, mais aussi les volumes à exploiter. Donc, il faut un mécanisme de contrôle qui soit mis en place par l'État. Donc, il y a l'organe de contrôle et il y a une division au niveau du ministère. Quand nous parlons de la pollution, effectivement, la mise en place, j'ai parlé de déboisement, il faut des énergies renouvelables. Donc, il faut regarder le solaire et autres énergies qui permettent à ce qu'on ne compte pas simplement sur l'énergie bois, sur la biomasse, mais qu'on compte maintenant sur les autres énergies qui sont moins polluantes.
Un instant, on va accueillir Gentil Oumano de Kananga avant de poursuivre. Oui. Gentil, bonjour, quelle est votre préoccupation? Oui, parlez un peu plus fort.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité du jour. Oui, je voulais poser la question directement à monsieur le journaliste. Nous avons maintenant l'invité. Nous avons vu ce n'est ici à Kananga, en train de couper des gros arbres là, on est en train de couper. Or, la province aussi a besoin d'environnement, besoin de l'air. Quels sont les conseils que notre invité peut donner au gouvernement provincial qui est adapté à couper des gros arbres? Il peut empêcher aussi à la population d'avoir une bonne oxygène et avoir aussi une bonne l'air pendant la journée. Merci, c'est gentil, Oumano Kana.
Monsieur Flory.
Oui, je continue et puis je reviens sur Monsieur Gentil.
D'accord.
L'intervenant d'avant avait parlé de la pollution. Effectivement,
ceux qui fument, les sociétés brassicoles qui déversent dans l'eau les résidus et puis les véhicules également qui polluent d'après qui dégagent comment on appelle ça, la fumée.
Oui, exactement.
Dans la nature.
Exactement. Lorsque nous parlons de causes de changement climatique, nous avons l'industrie qui est importante, qui joue son rôle important. Et nous avons le transport. Donc, quand nous prenons les transports, il y a le véhicule et autres, et qui font partie de ceux qui polluent. Qui émettent des gaz à effet de serre, donc qui augmentent la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et qui provoquent le réchauffement climatique. Il y a des processus, vous parlez de ce que je fais, nous avons la RED qui parle de la réduction des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des forêts. Mmh. Mais au même moment, nous regardons un autre aspect, nous ajoutons les plus, où nous faisons allusion à la partie conservation, augmentation des puits de carbone et aussi gestion durable des forêts. Et ici, nous voyons ce qui est fait au niveau international. Vous vous souvenez à l'époque, l'essence que nous utilisions dans nos voitures avait du plomb, n'est-ce pas?
Et actuellement, puis aujourd'hui, on a des essences en plomb.
Donc, c'est un effort qui a été consenti par les fabricants ou par les industriels pour réduire cela. À une époque, on avait des tuyaux d'échappement. Aujourd'hui, on a des tuyaux d'échappement à peau catalytique, donc qui émettent moins de gaz des gaz carboniques. Donc, les efforts sont consentis à un certain niveau. Mais maintenant, si nous revenons à notre pays, est-ce que les mêmes efforts sont consentis au niveau de nos entreprises? Ça, c'est une responsabilité à la fois citoyenne, une responsabilité aussi des ministères de tutelle pour faire justement des contrôles, voir comment les déchets sont gérés, parce que les déchets en tant que même les déchets solides, les déchets liquides et les déchets que nous envoyons au niveau de l'air doivent être contrôlés et respecter certains normes pour que la pollution ne soit pas comme dans certains pays ou au Mexique par exemple, à la ville de Mexico où le matin on a le smog qui vous envahit, ou dans certaines zones de la Chine où vous ne pouvez même pas passer. C'est pour ça que souvent
la pollution est tellement intense.
Oui. Donc vous êtes dans une difficulté énorme pour pouvoir sortir le matin. Il faudrait que vous ayez un masque pour vous protéger. Donc nous avons cette responsabilité-là de dénoncer justement lorsque nous voyons ce genre de choses et de voir le ministère de tutelle pour qu'il y ait des actions soient prises pour qu'on puisse lutter contre la pollution qui est en train de se faire.
Jean-Cy Loumanon nous parle de la coupe des arbres. Parfois ce sont les autorités qui autorisent la coupe des gros arbres qui permettent à la population d'avoir de l'ombrage.
Justement, mais il y a aussi l'autre part, parce que maintenant, pour couper un arbre, il faut demander une autorisation. C'est le ministère de l'Environnement qui vous donne l'autorisation des coupes d'arbres. Même l'arbre que vous avez planté là,
vous n'avez pas le droit de le couper.
Non, justement. Donc, vous avez une autorisation. Il faut qu'il y ait une raison spécifique pour le couper. Notamment lorsqu'il y a des intempéries, vous avez vu, à un moment donné, au niveau de la ville de Kinshasa, par exemple, les vieux arbres tombent. Donc, ça représente un danger. Lorsque ça commence à représenter un danger, on doit le couper, mais on doit remplacer. Mm-hmm. Lorsque l'exploitant forestier exploite et coupe un arbre, il doit
remplacer.
Donc, il paye aujourd'hui une taxe de reboisement qui permet à ce que l'autorité de tutelle puisse reboiser. Donc, normalement, on ne devrait pas couper pour couper, mais lorsqu'on coupe, on devrait remplacer. Oui. Est-ce que ça se fait au niveau des Kananga? Ça, c'est la question à poser. Quelles sont les raisons profondes qui incitent l'autorité à couper et à déboiser? On devrait le savoir. Et s'il y a une politique de reboisement qui vient après, on devrait également le savoir.
Donc,
ce sont les questions qu'on doit poser à l'autorité.
Découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, fruit de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Que faire pour préserver la biodiversité? Flori Botamba, coordonnateur de projet Point Focal Red au Fonds mondial pour la nature, est notre invité. Nous avons deux autres auditeurs en ligne, Lagiloa Mukalenge de Kalemi, Pacifique Massiria, et nous appelle de Bounia en province orientale. Lagiloa Mukalenge, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Pour la radio Okapi, d'organiser une telle émission, je pense que de la biodiversité qui est célébrée dans le monde entier, malheureusement, qui est monitionnée, organisée en l'occasion de cette journée ici en République dans le pays du Congo. Je pense.
La ligne n'est pas très très bonne, on ne vous entend pas bien. Je vais revenir à vous tout à l'heure, peut-être que ça va s'améliorer. Je vous demande de vous déplacer un tout petit peu. Pacifique, il est temps d'accueillir Pacifique Massiria, Debounia. Pacifique, quelle est votre préoccupation?
Et ma préoccupation est celle de, disons, de poser la question à l'équité, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de polluer l'heure et nous sommes en train aussi de déboiser massivement les bois. Et la question qui se laisse poser, l'ancien temps, on n'avait pas beaucoup de lois, et aujourd'hui, comme nous avons eu des lois, il serait normalement éradiquer le système-là de déboisement des ordres et consorts. Et aujourd'hui, comme on n'en parle plus, le système est en train maintenant de se dégrader. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse, disons, élaborer une loi selon laquelle celui qui pollue plus, paye plus. Donc le pollueur, payeur.
Merci.
Dans nos maisons respectives, dans nos ménages, nous sommes en train de polluer l'heure. Et dans des, avec les écrans, et, je sais pas, les bois de chauffage, et avec les camions, qu'on sort. Donc le pollueur, payeur, il faudrait, disons, élaborer une loi, le pollueur, payeur, puis celui qui pollue plus, et paye plus.
Merci. Serge Sekal, vous êtes à Lubumbashi. Quelle est votre préoccupation?
Oui, en tout cas, merci beaucoup Radio Okapi. Nous avons eu déjà des émissions pareilles, des interventions comme ça, mais en pratique,
oui, Serge, veuillez réduire le volume.
Katanga, il y a des mines, même dans la communauté. Il n'y a pas une loi de réglementation des mines, parce qu'il y a des criminels, il y a des particules fines qui se déversent dans la population, dans la société, rien du tout. Je veux tout simplement demander à l'invité qu'il faut seulement sensibiliser la population, ou il faut voir l'État, ou quoi que ce soit, parce qu'on ne trouve rien dans ces interventions. Et dans des milliers ruraux, qu'est-ce qu'on va conseiller ces gens-là? Qu'est-ce qu'allons-nous dire à ces gens-là? Parce qu'ils vivent que des bois préparés, quoi que ce soit, il n'y a pas du courant. Mais quelle est la solution? On doit chercher la solution comment?
D'accord, parce merci. Merci Serge. Merci Serge Nseka. Flori Botamba, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces auditeurs?
Je peux revenir sur Serge. Effectivement, lorsqu'on a des activités minières et toute autre activité qui a un impact au niveau de l'environnement, il faut faire d'abord une étude d'impact environnemental et social,
oui,
identifier les impacts négatifs et proposer des mesures d'atténuation. Donc, les sociétés qui travaillent dans la zone ont la responsabilité de proposer des mesures d'atténuation par rapport aux impacts causés par les travaux réalisés par leurs entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on devrait y veiller avec beaucoup plus de sérieux et veiller à ce que cela se réalise. Et au niveau de la population, est-ce que c'est simplement la sensibilisation? La sensibilisation ne veut pas simplement dire donner l'information. La sensibilisation, c'est faire partie de la solution. Et quand on parle du déboisement, effectivement, parce qu'aujourd'hui, notre pays, c'est l'énergie bois qui est la première source d'énergie dans nos maisons. Mais il y a des...
Le makala, tout ce qu'il y a.
Voilà, j'avais proposé, il y a le boisement, reboisement. Donc la communauté peut planter son propre champ, sa propre plantation. Et cette plantation-là, personne ne viendra vous dire si vous la gérez bien ou pas. Ça veut dire que vous devez renouveler. Il y a des méthodes que vous devrez enseigner pour renouveler, comme ce qui s'est fait à Mampou, où on donne à des communautés, à des familles 25 hectares, ils exploitent 3 hectares par année et finalement tu as un cycle de 8 ans. Donc finalement tu es toujours en train de travailler dans ton champ et tu renouvelles et ça te permet de produire l'énergie dont tu as besoin, c'est-à-dire le bois de chauffe ou le makala. Et en même temps, il ne faut pas regarder simplement à l'énergie bois, il faut regarder à d'autres sources. Il y a notre pays regorge d'autres différentes sources d'énergie et de possibilités, de potentialités d'énergie renouvelable. Les solaire est une opportunité pour le pays. Et les gens ne sont pas en train d'aller vers le solaire pour des raisons, peut-être que...
Aujourd'hui, on utilise les solaires à... Vous avez une idée sur le pourcentage?
Non, je mentirais si je vous donnais un pourcentage précis. Bon, on s'est dit effectivement qu'il y a une difficulté aujourd'hui. Ça demande les coûts de mise en place de petites unités sont un peu élevés, mais à la longue... vous imaginez, vous faites des économies. Donc, il y a des opportunités. Il y a la biomasse, il y a d'autres, même dans la gestion des déchets, on récupère l'énergie qui sont dans des dépotoirs et qui permettent à ce que on puisse aujourd'hui réutiliser ces énergies-là.
Oui.
Nous avons été dans des formations dans d'autres pays. Nous avons vu un pays comme la Corée du Nord, du Sud, pardon, dans la ville de Séoul, comment on réutilise l'énergie des dépotoirs. Et c'est assez intéressant de voir cela que on peut profiter de tous les déchets que nous sommes en train de jeter
dans nos marchés
et justement et avoir de l'énergie qu'on pourrait utiliser et renforcer notre système de gestion d'énergie. Donc il y a des opportunités, mais effectivement il faut qu'il y ait des modèles, il faut qu'il y ait de petits projets pilotes pour initier les communautés à aller dans ce sens.
Voilà,
c'est ce
qui manque. On va terminer avec la question de Laurent Bailanda, Kambalé, docteur Bailanda. Voilà, il nous a écrit de Butembo, au Nord Kivu. Il dit, j'interviens depuis Kampala, en Ouganda. Il est en Ouganda. La pauvreté de la population et le manque des stratégies efficaces de gestion de la biodiversité sont les causes principales de toutes ces destructions. Et je suggère ceci pour la gestion des forêts. L'importance de la conservation doit être vulgarisée après la réduction de la pauvreté par la promotion de l'agriculture. La fabrication des braises et des planches doit avoir un suivi et des modalités adéquates, et les réfractaires doivent être punis. La gestion des ressources halieutiques doit impliquer les autorités commises au lac, et ces autorités doivent être formées et équipées. Les lieux, les périodes, les modalités et les filets et tout autre outil à utiliser pour la pêche doivent être contrôlés et respectés. La réglementation et la loi de pêche que notre pays utilise doit être actualisée et adaptée. Pour la protection de la faune sauvage, la population autour de la faune doit être impliquée dans la gestion autour de la forêt. Peut-être qu'il a dit ça. Ouais. Doit être impliquée dans la gestion et doit être bien encadrée. L'élevage des petits animaux de la basse-cour, animaux domestiques au Lakode, rats des Gambie, doit être vulgarisé, soutenu. Enfin, des stations spécifiques secondaires doivent être créées pour les espèces menacées et doivent être bien contrôlées et bien équipées pour réduire les cas de braconnage. Merci Radio Okapi. Là, c'est Laurent qui nous a écrit depuis Kampala. Un commentaire.
Je crois que tout ce qu'il a énuméré, ce sont des choses qui sont proposées dans les différents micro-projets que les uns et les autres sont en train de réaliser. Quand nous parlons de la pêche, effectivement, il y a eu des missions. Il y a la FAO, d'autres organisations, notamment. Nous-mêmes, nous avons travaillé il y a quelques années dans des programmes de pêche, dans des projets de pêche, justement pour sensibiliser et aussi proposer de l'amélioration des techniques traditionnelles de pêche et qui permettront aux communautés de faire la pêche comme elles ont toujours fait, mais avec des améliorations de leurs propres techniques et aussi veiller à la période de fermeture et d'ouverture des saisons de pêche autant que des saisons de chasse. Donc il y a des choses qui sont proposées, qui sont faisables, qui se font, mais en même temps, n'oubliez pas, il y a eu des crises multiformes au niveau du pays qui ont été à l'origine, en fait, de la pression croissante sur la biodiversité du pays et que, aujourd'hui, est-ce qu'il y a le processus d'offre d'emploi? Donc, il doit y avoir un équilibre entre les emplois qui ne sont pas liés directement à la biodiversité, les emplois de services qui créeraient des opportunités pour que les gens s'éloignent facilement des forêts, des rivières, des lacs et autres, et se concentrent sur d'autres domaines.
Si on ne préserve pas la biodiversité, qu'est-ce qui va arriver?
Si on ne préserve pas, c'est la mort, un point très. Parce que justement, certaines espèces sont de barrières naturelles contre certaines maladies.
Oui.
Et lorsqu'on fait une pression sur les espèces, par exemple, on est en train d'aller vers leur habitat, on diminue leur habitat, il y a la pression et c'est l'extinction de l'espèce. Et si vous continuez dans le même sens, aussi, il y a une difficulté de vie. Nous parlons aujourd'hui du processus RED, qui est une réponse justement au changement climatique. Donc ça veut dire qu'on est en train de voir des moyens pour réduire les émissions des gaz à effet de serre qui sont à l'origine de réchauffement climatique au niveau des forêts.
Merci beaucoup, Monsieur Flori Boutamba. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des projets et point focal de RED au Fonds mondial pour la nature. Merci et à la prochaine.
Okay, merci, c'est moi qui vous remercie.
Au capé. Everybody, show me the way I can go.